Monsieur Pierrot Dupuis, j'aimerais justement parler avec vous de la suite des choses par rapport à ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc, à partir du moment où les câbles ont lâché, donc vous avez dérivé jusqu'à l'impact sur la grève, parce qu'on comprend c'est de la roche, là. Comment vous avez vécu ça là, avec avec vos travailleurs à bord?
Mais là, monsieur, les autres étaient occupés. Moi, il était dehors pour essayer de prendre des corps parce que lui, le cap d'espoir est venu. Ils ont essayé de nous lancer des corps, mais le vent a fait en sorte qu'ils n'ont pas pris les corps, puis on s'est mis à talonner. Puis lui, il s'est mis à talonner aussi, fait qu'il a trouvé de s'éloigner. Puis là, ben, il n'a pas pu nous lancer de corps, puis on s'est ramassé sur le côté. Puis là, avec la force des vagues, ben, il n'y a plus personne qui a pu me rapprocher.
Là, vous parliez du bateau de la garde côtière qui a tenté de vous venir en aide après que les câbles ont lâché. Donc, la suite des choses, Monsieur Pierrot, Pierre Dupuis, donc à ce moment-là, vous vous êtes échoué à quelle heure et combien de temps ça a pris donc à...
Oui, vers 11 h, 11 h 15. 11 h 15 environ.
Et vous avez été secouru par hélicoptère à quel moment?
Bien, c'est parce que l'hélicoptère partait d'Halifax avant qu'il appelle l'hélicoptère. L'hélicoptère est arrivé à 3 h 30 du matin. J'ai été le dernier à débarquer. J'ai débarqué à 4 h du matin pour l'hélicoptère. J'ai fait débarquer mon équipage parce que j'ai débarqué le dernier. On ne pouvait pas débarquer du
Oui.
navire. La mer était trop mauvaise. Puis après le navire, on avait mis nos habits de survie. Mais j'aurais pas risqué la vie de personne ou la mienne pour débarquer pour essayer de gagner le rivage parce que c'était vraiment trop risqué.
Et avez-vous craint pour vous, votre vie ou la vie des autres personnes à bord durant toutes ces heures et ce qui s'est passé aujourd'hui?
Non, mais le bateau a été échoué, mais il était le nage, mais le bateau a été échoué. Mais je n'ai pas craint pour ma vie ni celle de mes employés. Ils avaient donné ordre de ne pas sortir à l'extérieur.
Comment on fait pour sortir un navire de cette impasse comme ça? Parce que là, s'il n'y aura pas plus d'eau, j'imagine, pour le soulever.
Mais là, ça va être, je pense, probablement attacher deux plus gros navires dessus pour essayer de le sortir. J'imagine que c'est ça qui va être essayé.
OK.
Mais là, pour commencer, il faut sécuriser les lieux, puis vider le fioul, puis tout
OK.
avant de pouvoir sortir.
Bon, j'aimerais vous entendre en terminant par rapport à la garde côtière.
C'est délicat de dire que la garde côtière n'a pas fait sa job parce qu'on donnerait l'impression de frapper sur des gens. Mais par contre, est-ce que la garde côtière à ce moment-là avait vraiment réalisé l'ampleur ou la possibilité de la gravité de la situation? Une chose est sûre, c'est que les pêcheurs l'avaient grandement réalisé. Moi-même, pour ma part, je répète que je voyais l'imminence de 4 possibles pertes de vie. Et puis, il faut pas amoindrir cette situation-là, il ne faut pas ridiculiser ça non plus. Il fallait agir très, très rapidement. Donc, d'avoir participé, ne serait-ce que justement sortir de un demi-mille pour faire le frein, on ne serait pas dans cette situation-là à parler de ça aujourd'hui. Donc, tu sais, on est en train de revoir au complet la formule de la pêche puis de la navigation dans notre golfe Saint-Laurent pour sauver quelques baleines noires. Y aurait-il moyen de pouvoir aussi sauver des bateaux, puis surtout des humains? À Rivière-aux-Nord, tu sais, on était la capitale des pêches, c'est connu, puis on essaye de promouvoir ça beaucoup. Donc, on doit être moyennement motivé qu'il y a du trafic maritime. Il y a beaucoup d'entrées puis des sorties de bateaux de pêche à chaque jour. C'est pas rare d'avoir une vingtaine de bateaux qui se promènent à chaque jour ici. Ça fait qu'on les connaît, la grosseur de nos bateaux. Même les touristes le remarquent, la grosseur de nos bateaux à l'échelle de notre bateau de sauvetage. Ça va pas ensemble. Comment je dirais bien? C'est pas l'outil efficace pour venir nous porter assistance, puis des demandes d'assistance, c'est quelque chose de normal. C'est pas parce que nos bateaux sont en mauvais état ou bric-à-brac. On est exposé aux éléments de la nature, tout simplement.
Donc, ce que ça vous prend, c'est un bateau de la garde côtière qui serait plus efficace aussi que ce qu'il y a en ce moment-là.
Définitivement. Puis la fois où on a perdu notre poste de station maritime locale, ça a amené des connaissances locales qui ont été perdues, totalement perdues. Dans cet exemple-ci, par exemple, Escoumin me demandait en radiocommunication la position du Genève. Mais je veux dire, quand on avait notre station maritime locale, je veux dire, les opérateurs radio sur place auraient tout simplement regardé dans les fenêtres puis auraient décrit la situation, auraient déjà pu situer l'hélicoptère beaucoup plus rapidement. Un autre événement qui s'est produit dans la nuit qui est déplorable, c'est que une fois que le Cap d'Espoir a dû rentrer pour un ennui mécanique, ben le JD Caroline Christine en était le seul bateau au large pour prêter assistance aux Genève. Certains diraient, oui, mais il n'y avait rien à faire. Au contraire, je veux dire, dans une situation comme ça, s'il y a quoi que ce soit, un des membres d'équipage à bord qui avait paniqué ou l'allure changeait d'une minute à l'autre dans le Genève, si je sais pas, il y avait une fenêtre qui avait cassé par une vague ou une roche projetée du rivage puis qui s'était emplie d'eau, il aurait fallu réfléchir à d'autres choses. Puis là, on était les seuls sur l'eau pour les aider. Et je suis pas sûr ça, que c'est normal comme situation qu'avec notre expertise de pêcheur, on doit aussi prêter assistance à des situations qui sont de détresse comme ça.
Et le fait qu'on n'a plus de station donc maritime à Rivière-Nord, ça a joué dans ce cas-là? Si on l'avait eu une, autrement dit, ça aurait évité beaucoup de problèmes?
Bien, ça aurait évité des problèmes, entre autres aussi, dans la nuit. Puis au niveau du service d'hélitreuillage, le centre de recherche et sauvetage qui nous a envoyé en aide en hélicoptère, c'était A1. C'est d'un grand professionnalisme et d'une grande perfection. C'est sûr que pour ma part, étant quelqu'un d'anxieux, on a manqué de mise à jour, on a manqué d'informations dans la nuit. Moi, je tentais de régulièrement rassurer les gens du Genève parce qu'en dernier, puisque leur chambre des machines a été envahie d'eau, la génératrice a arrêté de fonctionner et plus tard, leurs batteries aussi ont rendu l'âme. Donc, j'avais plus de communication radio possible avec le Genève, d'autant plus important de rester à proximité d'eux. Alors, je pouvais juste leur parler avec un des membres d'équipage par un cellulaire. Et là, les instructions de l'hélicoptère se passaient en anglais. Une grande chance, je me débrouille suffisamment en anglais pour avoir pu faire le relais. Mais vous voyez, c'est d'autres types de barrières. Quand tu as de la communication avec Escoumin, transmis par nous, un navire à proximité, retransmis par cellulaire dans une autre langue au navire en détresse, ça fait plusieurs délais inutiles.
Pierrot Dupuis, donc capitaine du Genève, Martin Paré, qui est capitaine du GD Caroline Christine, et Dave Coton, qui est capitaine venu en aide aussi. Merci beaucoup à vous trois.
C'est bien.
Merci.